Voilà, donc bonjour Sylvie, Seb et moi-même allons vous présenter donc cette partie, vous avez compris, à suspense, concernant l'enseignement de la compréhension dans nos 131 classes de CP. Et nous allons procéder pour cela en deux temps. Tout d'abord, nous allons vous présenter les résultats des observations et le traitement donc des données chiffrées. Et ensuite, eh bien, nous interrogerons ces résultats en fonction donc des apports actuels de la recherche dans le domaine de l'enseignement de la compréhension. Ce qui nous permettra donc en conclusion de vous proposer des éléments d'analyse des résultats obtenus. Donc cette présentation est le fruit d'un travail de toute une équipe qui a été réunie autour de cette question et nous en remercions donc nos collègues. Alors, notre travail d'analyse des observations s'est organisé autour de trois questions et bien sûr de cette interrogation centrale qui est: enseigne-t-on la compréhension au cours préparatoire? Donc, la première question concerne en quelque temps, concerne le temps alloué à cet enseignement. Nous avons donc voulu savoir si le temps alloué à l'enseignement de la compréhension avait des effets sur les apprentissages des élèves. La seconde question concerne les pratiques des maîtres. Nous nous sommes donc interrogés sur les tâches proposées aux élèves et, bien sûr, nous avons voulu savoir si ces tâches, eh bien, avaient des effets particuliers sur leurs apprentissages. Et pour finir, eh bien, nous avons tenté de connaître les autres variables qui pouvaient avoir un effet sur le développement de la compréhension. Donc, notre première investigation a été de calculer le temps alloué à l'enseignement de la compréhension dans l'ensemble donc du lire-écrire, ce qui permet déjà, vous le comprenez, de dessiner un paysage des pratiques. Et pour cela, donc, nous avons utilisé les moyennes qui ont été établies pour chaque semaine. Que remarque-t-on? Tout d'abord, que par rapport au temps moyen consacré au lire-écrire, Roland Guagou nous l'a rappelé tout à l'heure, qui est de 7h22 de moyenne hebdomadaire, eh bien, le temps alloué à l'enseignement de la compréhension représente 50 minutes la première semaine, c'est-à-dire 11% du total. 1h16 la deuxième semaine, deuxième semaine d'observation, c'est-à-dire 16,7% du total. Et 1h19 la troisième semaine, c'est-à-dire 18% du total. Alors là, deux remarques s'imposent, bien sûr. Vous le voyez, il s'agit d'un résultat d'un pourcentage assez faible, puisque nous ne dépassons pas les 18% de la totalité du temps consacré au lire-écrire, avec une progression en cours d'année. Ce qui nous permet déjà d'émettre une hypothèse. C'est que l'enseignement de la compréhension n'est pas considéré comme une priorité au cours de l'année, en tout cas pour nos 131 classes observées, et encore moins comme une priorité du début d'année. Si on compare ensuite la manière dont le temps est réparti par rapport aux autres composantes du lire-écrire, donc c'est une diapo que vous avez déjà vue tout à l'heure, on constate que dans les classes de notre échantillon, eh bien, le temps accordé à l'enseignement de la compréhension est significativement plus faible que celui alloué à la lecture, à l'écriture, ainsi qu'à la phonographie. On voit aussi que la progression au cours des 3 semaines, qui a déjà été signalée tout à l'heure, est inverse à celle de la phonographie. De nouveau, une hypothèse peut être posée. On peut supposer qu'à mesure de l'avancée dans la maîtrise du déchiffrage, eh bien, les enseignants s'autorisent à accorder plus de temps à l'enseignement de la compréhension. Mais attention, eh bien, ce résultat, tout à l'heure, va être un petit peu modéré, hein, parce que nous allons constater, eh bien, que l'on intègre des tâches écrites de manière assez importante. Voilà. Notre second travail, donc, a consisté à connaître les différents aspects de l'enseignement de la compréhension travaillés dans les classes. C'est-à-dire que pour pouvoir observer et décrire au mieux les pratiques des enseignants, eh bien, le groupe Compréhension a élaboré une grille de 9 tâches qui vous ont été très rapidement présentées tout à l'heure. Donc, nous allons revenir dessus. Et vous allez voir donc qu'ils n'ont pas été construites au hasard, bien sûr, mais qui correspondent aux attendus institutionnels, aux observations dans les classes, aux déclarations des enseignants et naturellement aux données issues de la recherche. Donc ces 9 tâches, eh bien, peuvent être réparties en 3 grandes familles d'activités. La première grande famille, ce sont les tâches C1 et C2 qui portent sur l'anticipation du sens et la préparation de l'activité de compréhension. C'est par exemple préciser le projet de lecture, émettre des prédictions sur le texte, émettre des hypothèses en début de lecture ou en cours de lecture, et ainsi de suite. Vous avez le deuxième grand groupe, ce sont les tâches C3 et C7 qui ont pour objectif d'élucider le sens du support, que ce soit un texte ou une image, et qui conduisent à élaborer une représentation mentale donc de la situation évoquée par ce support. Là, il s'agit par exemple d'expliquer collectivement ce que l'on a compris, de paraphraser, de reformuler, d'inciter les élèves à se représenter le contenu de la lecture, et ainsi de suite. Vous le voyez, ces deux ensembles donc sont des activités orales qui ont été donc menées dans la classe. Et puis nous avons le dernier grand groupe, les tâches C8 et C9, qui désignent l'ensemble des activités de compréhension. Et là, cette fois, il s'agit de tâches écrites qui portent naturellement sur la vérification de la compréhension. Donc ces tâches, notamment les tâches C8, ont été réalisées individuellement et par écrit par les élèves. Pour C9, eh bien, il s'agit de la correction de ces tâches. Alors, très précisément, eh bien, nous avions demandé aux enquêteurs de coder toutes les tâches de type questionnaire, illustration d'un texte, choix d'image, c'est-à-dire tout ce qui nécessitait la manipulation de l'écrit. Alors, juste pour préciser, ces différentes tâches ont été déclinées en fonction d'autres paramètres qui vous ont été présentés précédemment. Vous voyez entre parenthèses, phrase ou texte, hein, selon l'unité qui était travaillée. Et puis, nous avions également relevé les différents supports, par exemple les TNI, les fiches, les manuels, et ainsi de suite. Donc, comment se répartissent ces tâches au cours des 3 semaines? Vous avez un ensemble, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui correspond aux 9 tâches, avec à chaque fois 3 bâtons qui correspondent aux 3 semaines. Vous remarquez que ce sont les tâches C8, c'est-à-dire, vous l'avez en dessous, réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension, qui sont majoritairement présentes. Ces tâches sont même surreprésentées, puisque la première semaine, elle représente 13 minutes, c'est-à-dire 26% du temps. La deuxième semaine, 29 minutes, 37,2% du temps. Et la troisième semaine, eh bien, on arrive à 33 minutes, c'est-à-dire quasiment 42% du temps. Alors, si nous reprenons, vous voyez, nous avons vraiment là une répartition intéressante, en tout cas par an. Si nous reprenons le même groupement que tout à l'heure, vous vous souvenez, les tâches d'anticipation, les tâches d'élaboration du sens et les tâches de vérification, eh bien, nous remarquons l'évolution de ces 3 grandes familles. Les tâches orales d'anticipation sont très peu pratiquées pendant toute l'année. Les tâches d'élaboration du sens connaissent une très très légère augmentation entre la première et la deuxième semaine, mais ce sont principalement les tâches écrites qui augmentent au cours de l'année à mesure que les élèves deviennent plus autonomes dans la pratique de l'écriture. Alors, il faut malgré tout, là aussi, différencier. Ce budget de temps varie considérablement entre les classes, ce qui va nous conduire à interroger, bien sûr, les effets de cette variation sur les apprentissages des élèves. Vous connaissez ce graphique. Donc, si on regarde le graphique, eh bien, on constate une forte amplitude de la distribution. Les 13 classes qui sont la première partie du graphique consacrent moins de 30 minutes aux tâches de compréhension par semaine. Tandis que les 13 qui sont à l'autre bout du graphique y consacrent plus de 2 heures. C'est-à-dire qu'entre les 2 déciles extrêmes, le temps consacré est multiplié par 4. Et vous voyez aussi sur ce graphique que la moitié des classes de notre panel consacrent moins d'une heure par semaine aux tâches de compréhension. C'est-à-dire que selon les classes, un élève peut passer moins de 30 minutes par semaine à travailler la compréhension, tandis qu'un autre y consacrera plus de 2 heures. Il y a donc une très forte diversité entre les classes de notre échantillon du temps proposé aux élèves dans ce domaine. Et nous allons maintenant, et je vais tenter, avant de passer la parole à Sylvie, de répondre à notre dernière question, à cette question, c'est-à-dire quels sont les effets du temps alloué à la compréhension sur les résultats des élèves. Eh bien, il apparaît qu'il n'y a aucun effet de l'accroissement de la durée de l'enseignement sur les performances des élèves, malgré ces écarts que nous avons pu constater. Et ceci, que ce soit sur les résultats en compréhension des textes lus, comme en compréhension des textes entendus. Autrement dit, on peut faire peu ou beaucoup de compréhension. Au niveau de cette analyse, cela ne modifie pas les résultats des élèves. Bien sûr, vous vous doutez bien que cela va totalement à l'encontre de ce que nous nous attendions à observer. Alors, quelques éléments pour essayer déjà d'apporter des premières pistes de compréhension. Tout d'abord, vous voyez que ces résultats vont dans le sens de ce qui a été présenté tout à l'heure par Roland Guagou, c'est-à-dire le faible poids de la pédagogie dans le domaine de la compréhension, alors qu'il est très important en écriture, puisque, pour rappel, eh bien, ce poids est de 4,9%. Ensuite, eh bien, nous constatons que ces résultats soulignent pour nos 131 classes le temps important accordé aux tâches écrites et individuelles et que ce temps important ne s'accompagne pas de progrès significatifs pour les élèves. C'est à réfléchir. Par contre, les activités d'élaboration du sens sont peu travaillées dans les classes. On peut supposer qu'une grande partie de la compréhension des textes est laissée à la charge des élèves seuls. Ensuite, eh bien, on voit que la capacité à comprendre est peu travaillée au CP, que ce sont les acquis antérieurs qui paraissent déterminants et qui sont fortement liés au bagage culturel des élèves. Dernier point, eh bien, les résultats soulignent la difficulté à mettre en œuvre une pédagogie de la compréhension efficace. Si celle-ci n'est pas solidement étayée par les apports et par les connaissances didactiques, il nous semble qu'elle est sans effet. C'est exactement ce dont va nous parler Sylvie.
Merci, bonjour. Des résultats surprenants, point d'interrogation. Oui, et sûrement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on avait l'intuition au départ de cette recherche que plus les maîtres passeraient du temps à enseigner la compréhension, plus leurs élèves seraient performants à la sortie du cours préparatoire. Et vous avez vu que ça n'est pas le cas. Alors comment expliquer que les pratiques pédagogiques mises en œuvre produisent si peu d'effets sur les apprentissages des élèves? Nous allons faire un détour par la littérature scientifique internationale et les travaux de recherche les plus récents qui nous permettent d'interpréter ces résultats, et notamment la méta-analyse qui a été menée par Duke et Martin, publiée en 2015. Que nous enseigne-t-il? Il nous enseigne que, quand ces méta-analyses s'intéressent aux pratiques des maîtres les plus efficaces, et j'insiste sur les maîtres les plus efficaces de l'école élémentaire en général, pas seulement sur le CP, eh bien, que montrent ces méta-analyses? Elles montrent que les maîtres efficaces favorisent l'engagement actif des élèves dans la recherche de sens. Autrement dit, je vais prendre un exemple au CP, on déchiffre une phrase écrite au tableau, et puis l'enseignante ou l'enseignante ferme le tableau et dit « Alors, et maintenant, qui peut me redire dans ses propres mots ce qu'on vient de lire? Qui peut faire une hypothèse sur ce qui va se passer ?» Bref, on engage les élèves dans une recherche et une construction collective de sens. Deuxième caractéristique, les maîtres efficaces se caractérisent par un enseignement explicite des stratégies qui sous-tendent la compréhension. Quelles sont-elles? Je ne vais pas évidemment toutes les lister, puisque la littérature en liste un certain nombre, mais je vais m'intéresser à celles qui me paraissent les plus pertinentes pour le cours préparatoire. Eh bien, ce sont ces maîtres qui incitent les élèves à trier les informations importantes, qui les incitent à tricoter les idées entre elles pour construire une représentation mentale cohérente, qui les invitent aussi à se mettre à la place des personnages pour essayer de comprendre ce qui pousse les personnages à faire ce qu'ils font, autrement dit à produire des inférences à la fois sur les états mentaux des personnages et puis aussi des inférences causales, qui les amène donc à remplir les blancs laissés par l'auteur, qui les incite à expliciter l'implicite, à contrôler leur compréhension et à détecter si la première représentation mentale qu'ils ont construite au début, n'est pas transformée par les nouvelles informations qui viennent dans le texte, donc à vérifier que leur représentation n'est pas incohérente avec ce que l'auteur est en train de nous apprendre de nouveau. Et puis aussi à utiliser et à activer leurs connaissances, connaissances du monde, connaissances antérieures, lexicales. Troisième caractéristique des maîtres efficaces, ce sont eux qui font du lexique et de la syntaxe un objectif prioritaire. Et ceci est d'autant plus vrai qu'ils exercent dans des écoles classées, chez nous en éducation prioritaire, ailleurs dans d'autres types de structures. Et puis, des enseignants qui enseignent les connaissances encyclopédiques ou les savoirs de base nécessaires pour comprendre et qui ne font donc pas de la compréhension de lecture uniquement avec des textes narratifs ou des textes de la littérature de jeunesse, mais qui utilisent une grande variété de textes différents. Et si nous avons utilisé ces recherches, c'est bien pour montrer que si on met en regard les caractéristiques des maîtres efficaces telles que les recherches les décrivent et qu'on regarde ce que Marie-France a présenté à l'instant des pratiques des maîtres, c'est-à-dire qu'on peut dire que ce sont les catégories C3 à C7 qui sont représentées ici et qui de fait sont relativement peu travaillées dans les classes de cours préparatoires comparativement aux tâches écrites par exemple. Et donc il nous paraît que cela peut expliquer une partie de nos effets, nos faibles effets. Venons-en à présent sur une question qui a déjà été abordée tout à l'heure dans les présentations différentes, c'est les pratiques des maîtres dépendent-elles des manuels utilisés et de leurs principes sous-jacents ? Nous avions bien sûr l'hypothèse, en démarrant ce travail, que les maîtres qui utilisaient des manuels intégratifs, qui avaient donc dans le manuel un enseignement prévu de la compréhension, eh bien que nous avions l'idée que ces maîtres devraient obtenir des résultats supérieurs avec leurs élèves. Qu'en est-il ? Non. Aucun de nos indicateurs en compréhension n'est lié à l'utilisation de tel ou tel type de manuel, qu'il s'agisse du volume horaire hebdomadaire. Donc les maîtres qui emploient un manuel intégratif n'enseignent pas plus longtemps de manière significative la compréhension que les maîtres qui n'utilisent pas de manuel intégratif. Il n'y a donc pas, du point de vue du volume global, du temps accordé à chaque catégorie de tâches. On ne peut pas dire que les maîtres qui utilisent un manuel intégratif, par exemple, font plus de C3 à C7 que les autres. Nous avions évidemment la question suivante, les caractéristiques des élèves et le contexte d'exercice REP versus non-REP modifient-ils l'offre d'enseignement ? Là encore, nous avions une hypothèse, nous cherchions à savoir plutôt si les caractéristiques des élèves et le contexte d'exercice influençaient les pratiques d'enseignement en compréhension. En d'autres termes, on pouvait supposer que les maîtres qui exercent en REP, conscients des besoins des élèves dans ce domaine particulier de la compréhension, eh bien on pouvait faire l'hypothèse qu'ils accroissent l'offre d'enseignement, ou au contraire, comme le concluent un certain nombre de travaux d'autres chercheurs, que cette offre serait peut-être diminuée, les maîtres préférant proposer des activités sur les savoirs de base centrées sur le décodage plutôt que sur la compréhension. Eh bien non. Nos résultats ne révèlent aucun écart significatif entre les contextes, entre les classes en éducation prioritaire et les classes hors éducation prioritaire. Nous nous sommes ensuite intéressés aux autres facteurs capables d'influencer nos résultats. Et ici, que voit-on ? On voit un effet positif dans nos résultats quand les maîtres augmentent la quantité d'enseignement du vocabulaire et un effet positif sur le score global en compréhension, mais notamment sur la compréhension de textes entendus. Et ce, d'autant plus que les élèves sont initialement faibles. Autrement dit, ce résultat conforte les résultats des travaux de recherche qui montrent qu'un enseignement explicite soutenu du lexique, accompagné d'une incitation à la mémorisation et une vérification que ce lexique est bien appris, produit des effets sur les apprentissages des élèves, et notamment en compréhension de textes entendus. On voit aussi un effet positif, là aussi, qui est déjà montré dans la littérature, d'une augmentation de EL3 chez nous, c'est-à-dire la morphologie, l'orthographe des mots, les chaînes et des accords et des instances verbales, évidemment, surtout en compréhension autonome, où ces compétences sont nécessaires pour comprendre. Et enfin, une augmentation du nombre de livres lus aux élèves a un effet positif dans notre étude, avec un effet de seuil néanmoins, d'autant plus fort que les élèves sont initialement faibles. Et là, on voit comment, quand les maîtres ont le souci des élèves initialement faibles, qu'ils leur lisent des livres régulièrement, eh bien, ça produit des effets sur le score de compréhension. Nous le verrons cet après-midi avec Anne Vadkar et Marianne Thiré. Alors, quelques pistes interprétatives des données et de nouvelles questions de recherche pour de futures analyses. Que peut-on observer ? On peut faire l'hypothèse, on peut interpréter nos résultats avec l'idée que, chez de nombreux maîtres, on ne pourrait pas travailler la compréhension avant que les élèves maîtrisent le code. Autrement dit, et Marie-France l'a dit, que la compréhension au CP ne serait pas jugée comme étant prioritaire tant que les élèves n'ont pas bien avancé dans l'étude du code. D'autre part, on peut se dire que la pédagogie, l'enseignement de la compréhension, pardon, est une pédagogie assez peu gratifiante parce que les effets sont difficiles à mesurer. Il est beaucoup plus facile de voir que les élèves maîtrisent les conversions graphophonologiques, un ensemble fini d'habiletés, contrairement à la compréhension qui comprend un nombre quasi infini de connaissances et de compétences. Enfin, quasi infini, c'est un peu exagéré. Ensuite, une pression forte sur l'enseignement du code, à la fois par les parents, par les collègues, par les médias et les chercheurs. Et puis des cibles un peu plus difficiles à cerner, un enseignement sûrement plus difficile à concevoir et à réaliser, une didactique très récente, moins d'outils à disposition, moins de points de repère pour les maîtres. Une fois qu'on a... Nous avons fait nos hypothèses à propos de nos résultats. Maintenant, allons voir où sont les consensus scientifiques dans le domaine de la compréhension en lecture. Et je parle de consensus scientifiques internationaux. Le premier consensus, c'est qu'au fond, très vite, les élèves ne seront plus jugés sur leur capacité à décoder, mais le seront sur leur capacité à comprendre. Toutes les évaluations nationales et internationales évaluent la compréhension en lecture. Et on a énormément de preuves pour dire qu'à 10 ans, beaucoup d'élèves ne comprennent pas ou comprennent mal ce qu'ils décodent pourtant bien. On pourrait dire qu'au fond, ces difficultés de compréhension apparaissent au cours de la scolarité, ce que Schall appelait le gap de la quatrième année. Mais les travaux que je cite, Katz, Nation, Elwer et Duke et Martin, montrent qu'en fait, ces difficultés, le plus souvent, étaient là, en grande section. Mais qu'elles disparaissaient, qu'elles étaient silencieuses, qu'elles ne se voyaient pas au cycle 2, parce qu'elles étaient masquées par les modalités d'évaluation, Roland Guagou en a parlé tout à l'heure, qui ne proposent finalement comme test de la compréhension que des tests qui évaluent d'abord et avant tout le code et donc qui proposent des textes courts, simples et posent des questions littérales. Et vous voyez comment, en cycle 2, eh bien, les difficultés des élèves qui étaient visibles en grande section sont devenues invisibles au cycle 2 et réapparaissent en CM1. Autre consensus international, les cibles à viser. Je ne vais pas les lister puisque j'en ai éclairé un certain nombre, les cibles à viser, je les ai listées tout à l'heure quand je parlais des pratiques efficaces. Là, des consensus scientifiques. Un enseignement explicite de la compréhension qui produit des effets sans nuire au développement du code. Là, on a le rapport qui a été publié en 2000 qui montre qu'un enseignement explicite de la compréhension produisait bien des effets sur les apprentissages des élèves sans nuire au développement du code. Que montre la méta-analyse suivante ? C'est qu'il faut commencer tôt et sans attendre que les élèves sachent décoder. Les enseignants de maternelle présents dans cet auditoire n'en doutent pas, puisque dès l'école maternelle, on applique un enseignement très précoce de la compréhension en lecture. Autre consensus, il ne faut pas qu'il y ait de trous dans le cursus. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de trous entre la pédagogie de l'école maternelle et la pédagogie du cycle 3, mais bien un enseignement explicite pendant que les élèves apprennent à déchiffrer. Et bien sûr, soutenir cela nous amène à soutenir une idée forte, c'est celle-ci. Au cours préparatoire, si on suit le raisonnement de tous ces consensus internationaux, alors les enseignants de cours préparatoire n'ont pas d'autre choix que de dissocier les activités et les supports. C'est-à-dire, en début d'année, choisir des textes pour les problèmes de compréhension qu'ils posent, et donc les lire pour les élèves, et travailler avec eux sur ces problèmes de compréhension posés par les textes, que les élèves entendent et non pas en fonction du critère décodable. Puisque si on ne s'appuie, hein, si on reprend le travail qu'a présenté Jérôme Rioux, si on ne s'appuie que sur du décodable par des élèves en début de cours préparatoire, alors nécessairement, on va avoir des textes qui sont trop courts, trop simples et qui ne posent pas de problème de compréhension. Et rappelez-vous la donnée que Roland Guagou a présentée, mieux les élèves comprennent les textes entendus, mieux ils comprennent les textes qu'ils liront seuls par la suite. Donc là, il me semble qu'il y a une vraie question à maintenir active autour de la question du choix des supports. J'ai dit beaucoup de consensus, il y a néanmoins un débat et des résultats contradictoires dans la littérature. J'ai dit l'importance démontrée de l'enseignement de stratégie relativement générale pour comprendre. Mais le débat porte aujourd'hui sur la meilleure manière de les enseigner, donc sur les modalités d'enseignement le plus efficace pour la compréhension. Et là, il y a deux courants de recherche qui débattent. Le premier, ce sont les chercheurs qui défendent l'idée que ces stratégies doivent être enseignées de manière isolée, l'une après l'autre, lentement, sur du texte court, construit pour l'occasion, et posant peu de problèmes de lexique et de syntaxe pour centrer l'attention des élèves sur la fameuse stratégie. Charge ensuite aux élèves de les tricoter entre elles pour les appliquer simultanément sur un texte complexe. Donc, charge aux élèves de transférer ce qu'ils ont appris dans ce contexte, que j'appellerais contexte d'atelier de compréhension, en situation de lecture de texte complexe. L'autre modalité, propose plutôt d'enseigner les stratégies simultanément, évidemment pas toutes le même jour, mais au sein d'une séquence d'enseignement qui s'organise non pas autour de la stratégie elle-même, mais autour de textes longs, complexes, choisis justement pour poser des problèmes de compréhension et faire apparaître l'intérêt, l'utilité de cet apprentissage stratégique et de l'utilisation en situation de ces stratégies. Je dis un débat. Il y a malgré tout, sur cette question, une recherche qui a fait du bruit. C'est celle de Rötzel et ses collaborateurs en 2005 qui, avec une méthode expérimentale, qui ont comparé la première modalité avec la deuxième modalité. Donc, deux groupes, l'un prenant un enseignement selon la première modalité, l'autre groupe d'enseignants utilisant plutôt la seconde. Et les résultats sont très convaincants pour démontrer que cet enseignement stratégique est plus efficace quand les stratégies sont enseignées simultanément à partir sur des textes complexes. Si je mets un petit bémol, c'est que cette recherche porte sur des textes documentaires scientifiques. Donc, ça n'a pas encore été montré pour les textes narratifs. Je laisse la parole à Marie-France pour la conclusion.
Alors, à partir, vous voyez, de ces travaux et donc de nos premières recherches, de nos premiers résultats, et également alimenté par tous ces éléments, eh bien, nous avons décidé d'affiner nos investigations pour aller plus loin et pour comprendre ce qui se passait. Nous allons donc tenter de caractériser le style didactique des maîtres efficaces. Comment ? Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, nous allons prendre appui sur les 20 maîtres qui, dans notre panel, ont fait progresser significativement leurs élèves en compréhension, voir en quoi leur pratique se distingue de manière significative des 20 maîtres les moins efficaces en compréhension. Qu'est-ce qui va pour nous faire la distinction ? Vous voyez comment ce travail et cette recherche est alimenté par les produits, par la littérature en quelque sorte internationale, qui va nous permettre justement de réfléchir sur comment nos résultats peuvent ou non alimenter les points qui viennent d'être proposés par Sylvie. Voilà. Bien sûr, donc, nous allons nous baser sur ces résultats des recherches et sur les résultats les plus récents. Et comme disait Roland tout à l'heure, nous vous donnons rendez-vous pour l'épisode 2 de Lire, écrire, la compréhension. Où en serons-nous avec tout cela ? Merci.